おかしいおかしい。
Il est 17h40, Kinshasa, place au magazine Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumbakamanga.
Bonsoir, le CNDP met fin à sa participation au programme Amani et exige des négociations directes avec le gouvernement. L'annonce a été faite depuis hier et confirmée encore aujourd'hui par le porte-parole du mouvement de Laurent Nkunda. Entre-temps, le plan de désengagement préparé par la MONUC vient d'être adopté par le gouvernement congolais ce mercredi à Goma en présence du président de la République. Quelles sont les conséquences de la décision du CNDP sur le processus de paix dans les deux Kivu? Quelles peuvent être les autres alternatives ou solutions pour sortir de cette crise? C'est le thème de cette émission Dialogue entre Congolais. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. Vous allez les suivre dans cette émission. Nos invités y répondront. Et parlant des invités, nous recevons Modeste Bonugaba, il est analyste politique et auteur de plusieurs ouvrages sur les élections, la démocratisation et le développement de l'Afrique. Katumbu Liongo, président national de la Convention pour la démocratie et la République, membre de l'ANP, Alliance de la majorité présidentielle, ancien ambassadeur au Rwanda et cadre ancien cadre des services de sécurité. Et enfin, le sénateur Jacques Joly, secrétaire national du MLC chargé de la décentralisation, défense et sécurité. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le CNDP met fin à sa participation au programme Amani et exige des négociations directes avec le gouvernement. Quelles sont les conséquences de cette décision sur le processus de paix dans les deux Kivu? C'est la première partie de cette émission. Mais avant d'ouvrir les débats, je vous propose de suivre le porte-parole du CNDP. René Abandi explique pourquoi leur mouvement a décidé de ne plus participer aux travaux du programme Amani. Nous vous l'avons dit, le groupe armé de Laurent Nkunda exige des négociations directes avec le gouvernement. René Abandi au téléphone de Willy Akonda.
Dans l'état actuel des faits, nous nous rendons compte que le programme Amani est un chemin détourné pour résoudre les questions politiques et militaires que le CNDP pose.
Mais vous pouvez également continuer à discuter dans le programme Amani.
C'est devenu pratiquement impossible parce que, un, notre délégation n'est plus sécurisée là-bas. Deux, comme je vous l'explique, la complexité, parce que c'était fait à volonté par le gouvernement, ils ont créé des groupes armés qui n'ont aucune arme, aucun militaire. Et ils le considèrent au même type d'égalité que le CNDP. Il s'agit d'un mépris inacceptable. Nous voulons que le gouvernement et le CNDP se conviennent sur un pays neutre. Les délégués du gouvernement et les délégués du CNDP se rencontrent dans ce pays neutre. Que des questions importantes que le CNDP pose soient traitées là-bas, parce que ce sont les deux belligérants et seulement les deux.
Parmi les réactions, celle du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est exprimé à l'issue d'une réunion avec la facilitation internationale ce même mercredi à Goma, réunion tenue en présence du président de la République et l'abbé Malumalu. Pour Vital Kamerhe, le gouvernement est prêt à examiner avec le CNDP ses revendications pourvu que le mouvement de Laurent Nkunda revienne dans le programme Amani. Vital Kamerhe au micro de Radio Okapi.
Comme on dit à nos amis du CNDP, les revendications, nous sommes prêts à les examiner, mais seulement si et seulement ils réaffirment leur appui au programme Amani. Parce que nous avons tous signé de bonne foi les actes d'engagement et comment. Nous disons aussi les aspects diplomatiques. Les aspects diplomatiques, je sais que souvent, nous rappellent qu'il faut combattre les extrêmes. Nous avons le processus de Nairobi et nous avons réaffirmé la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo et de toutes les parties à renforcer les dispositifs pour résoudre le problème des expats interamous. Nous nous sommes mis d'accord, donc nous attendons maintenant pour que le CNDP, à son tour, parce que toutes les parties ont adopté le plan de désengagement, nous voulons tous la paix pour le peuple congolais. Le CNDP l'a toujours dit qu'il veut aussi la paix pour le peuple congolais. Il aura l'occasion de prouver qu'il veut la paix et nous lui donnons toutes les garanties pour que nous puissions examiner toute forme de revendication et qu'il serait prêt à formuler. Voilà donc on venait ici pour faire la paix et non la guerre.
Voilà, je vous l'ai dit, nous avons dans ce studio Modeste Bonugaba, Katumbu Liongo et Jacques Joly. Et on commence par vous, sénateur Jacques Joly, votre première analyse de la situation.
Mon premier élément qu'il faut dire, c'est d'abord la misère, la souffrance du peuple congolais, nos frères du Kivu, qui sont encore ballottés. Et je crois que toute analyse qu'on peut faire doit d'abord partir de ce constat d'abandon de cette population qui est ballottée par des intérêts des uns et des autres. Deuxièmement, pour nous, l'échec du processus Amani ne nous étonne pas. Vous vous rappelez que ici, dans ces studios, nous vous avons dit que la rencontre de Goma s'est finalement transformée à une chamaillerie et que dès lors que les deux acteurs principaux de ce conflit, à savoir les CNDP et le gouvernement, n'avaient aucune volonté manifeste d'arriver à un vrai accord. Vous rappelez que le pouvoir, dans son schéma de gestion des crises, a toujours fait prévaloir la dimension militaire alors qu'il ne dispose pas de moyens. Et ce n'est que lorsque, sur le terrain, il est confronté à des contraintes et il recourt à ce moment-là, comme un recouillant, à aller négocier.
Vous savez aussi, vous parlez du gouvernement.
Du gouvernement. Vous avez suivi les débats qu'il y a eu au Parlement, vous avez suivi les déclarations du chef de l'exécutif, du président de la République, le temps de la carotte était fini. Donc on est parti négocier à Goma sous la contrainte, sous la défaite, sous la raclée de Kunda. Et Kunda n'est jamais venu à Goma. On a clôturé les négociations de Goma sur un non-accord.
Mais là, c'est Laurent Kunda qui demande les négociations. On peut dire que lui aussi est en difficulté.
Aujourd'hui, Laurent Kunda demande les négociations.
Les négociations directes avec le gouvernement.
Oui, il refuse les cadres imposés par la Mali. Puisque la Mali s'était transformée à une énorme machine à gaz où on a bureaucratisé l'affaire, on a donné ça au père Malou et finalement, on a exécuté aucun élément contenu dans l'acte d'engagement. Et aujourd'hui, nous apprenons que c'est aujourd'hui, 9 mois après, l'accord a été signé, je l'avais, qu'on présente finalement le plan de désengagement.
Qui
est adopté aujourd'hui, après que les gens aient reculé les armes et ont présenté le plan de désengagement. Le CNDP a écrit à plusieurs reprises pour dire on salisse. Mais le gouvernement n'a jamais témoigné, n'est-ce pas, d'une volonté ferme. Et ça, nous avons toujours dit, il y a un problème général d'offre de sécurité nationale dans le pilotage de la gestion de ces pays.
Voilà. On reprend d'abord à Tundu Liongo pour vous répondre. À Tundu Liongo, vous venez de suivre Jacques Lulis qui parle de manque de volonté politique de la part du gouvernement qui ne recourt aux négociations que lorsqu'il a discuté. À Tundu Liongo.
Je pense que c'est une affirmation exagérée, manifestement, parce que lorsqu'on se bat et qu'on demande des négociations politiques, c'est qu'on privilégie la paix et qu'on y trouve un intérêt, généralement quelconque. Et ici, celui qui a le plus grand intérêt à la paix, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement de la République. Parce que la paix conditionne la réalisation des 5 chantiers. Et donc, je trouve un peu paradoxal que l'on puisse lui prêter l'intention de privilégier les moyens militaires plutôt que le dialogue. Nous savons tous, la voie de la paix est une voie difficile, malaisée, et que pendant que l'on négocie, il faut consolider la paix. Et la seule façon de consolider la paix, c'est d'avoir des moyens dissuasifs. Prenez l'histoire. Les Ducteau et Kissinger ont négocié à Paris pendant que, chaque matin, les Américains déversaient des tonnes de bombes sur le Vietnam.
Donc pour vous, il n'y a pas de contradiction?
Non, il n'y a pas de contradiction. C'est une évolution, c'est un développement normal d'une situation difficile. Parce que, finalement, c'est la finalité qui compte, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas comprendre l'échec, c'est-à-dire la dénonciation par l'ensemble de l'accord convenu et l'adoption d'un autre moyen aux péripéties. Ce sont les péripéties.
Est-ce qu'Amani a été bien signé, selon vous?
Mais Amani, bien signé, qu'est-ce à dire?
En fait, je vais parler de l'acte d'engagement qui a produit, en fait, Amani. Est-ce que cet acte a été bien négocié, bien signé?
Vous savez, négocier signifie laisser une partie de ses intérêts pour le plus petit commun dénominateur des intérêts. Cela veut dire quoi? Que Amani ne peut pas satisfaire le gouvernement, tout à fait. Amani ne peut pas satisfaire le CLP, le CLDP, tout à fait, ni les Maïmaïtels, ni tous les autres groupes. Non, le Maïmaï et le processus Amani, n'est-ce pas, c'est le plus petit commun dénominateur. Et son développement dépend de l'évolution sur la situation et finalement d'un certain avènement de la solidarité entre partenaires. On n'est pas sans ignorer que les plus grands adversaires, lorsqu'ils négocient, deviennent des amis. N'est-ce pas? Yasser Arafat et les Israéliens sont là pour le prouver, de même que Sadat et les Israéliens.
Donc pour vous, M. Tundu Lyongo, il n'y a pas manque de volonté politique de la part du gouvernement, comme l'a dit le sénateur.
Au contraire, il y a volonté politique affirmée de façon récurrente par le chef de l'État, par le gouvernement et les moyens qu'il met à disposition.
Merci beaucoup. On va d'abord avoir aussi le point de vue de Modeste Bonigawa. Voilà votre lecture après les analyses de Jacques Joly et de Antoine Lyongo.
Oui, je crois que ce qui se passe à l'Est, c'est trop sérieux pour qu'on puisse ne pas chercher à aller jusqu'en profondeur des choses. Vous savez, la réunion de Goma, alors que l'ordonnance la convoquant disait très clairement qu'il s'agissait de mettre ensemble les hommes et les femmes qui sont capables de réfléchir aux causes du drame qui frappe toujours les populations de l'Est, des hommes et des femmes qui pouvaient donc proposer des solutions durables. Mais quand on a vu la composition de cet aéropage, on s'est rendu compte tout de suite que ce n'était pas pour réfléchir en profondeur.
Pourquoi vous dites ça?
D'abord, le nombre. Vous ne pouvez pas décemment penser que vous allez convoquer 1200, 1500 personnes et leur demander de réfléchir en profondeur sur des questions aussi graves.
Est-ce que vous voulez dire que l'échec du programme Amani était prévisible?
Oui, parce que nous l'avons dit à ce moment-là. Nous l'avons dit dès qu'on a commencé les préparatifs et qu'on a vu l'allure que ça prenait, que ça attirait plus des gens qui y allaient pour des perdièmes que pour réfléchir. Nous sommes dit, là, ça risque de capoter. Donc, nous ne sommes pas surpris. Parce que le problème de la sécurité, par exemple. Mais vous n'avez pas oublié qu'au dialogue intercongolais, on avait dit que la future armée nationale devrait être une armée nationale et républicaine.
Est-ce qu'elle ne l'est pas?
Elle ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que pour qu'une armée soit républicaine, il faut que chacun de ces éléments, pas seulement les officiers, soit capable d'intérioriser les valeurs de la République dans sa tête, dans son esprit.
Est-ce que ce n'est pas un processus? C'est que c'est
non, mais
trop tôt de
non, non, à ce non, non, parce que justement, si le mal est là, et ça date de 60, donc il ne faut pas continuer à dire un processus 50 ans après. Si vous n'êtes pas capable de mettre sur pied une armée composée d'hommes et de femmes, capable effectivement de comprendre où se trouvent les intérêts de la République, capable de ne pas être des milices, parce que on voit le frais des tribus. Si vous n'êtes pas capable de construire une telle armée qui sécurise tous les Congolais, vous allez droit à la dérive.
Voilà. Ça, c'était la lecture, évidemment, de chacun d'entre vous, hein, de la situation sur le terrain. Mais que peuvent être, là je reviens à vous, Jacques Joly, sénateur à MLC, quelles peuvent être les conséquences, hein, de la situation actuelle, hein, je rappelle qu'il s'agit bien de la décision du CNDP de ne plus participer au programme à Mali. Qu'est-ce que ça peut déjà donner comme conséquence sur le processus de paix dans les deux Kivus?
Mais comme conséquence, c'est que après la signature d'accord de l'engagement de Goma, c'était une situation de ni guerre, ni paix. Et que les partis sont restés pendant plus de 9 mois à se regarder en chef défaillance. Je crois que le professeur Bouygues l'a dit. C'était des questions sérieuses. Il fallait une réflexion en profondeur. Et non,
une approche tactique pour justifier le choix d'une méthode de gestion basée essentiellement sur la force. On ne peut pas utiliser la force pour gérer tous les problèmes. On leur a dit qu'il y avait une dimension diplomatique forte. Je suis très heureux d'être avec l'ambassadeur à Tondo. Le Congo ne sait pas clairement dire comment il conçoit sa survie en tant qu'État dans l'espace des Grands Lacs vis-à-vis du Rwanda, où on négocie ou on ne négocie pas. Ce sont des manipulations, ce sont des hésitations. On a parlé du plan de désengagement. Je vous ai dit, c'est aujourd'hui qu'on propose ce plan. Alors que l'acte d'engagement et le programme Amani prévoyaient qu'il fallait 78 jours pour terminer tous les programmes. Il n'y a pas eu de plan de brassage. Il n'y a jamais eu un programme d'intégration de l'armée de ces gens-là. Donc, voilà toutes ces questions de fond, des questions techniques qui ont été, n'est-ce pas, enrobées dans des considérations perdiennes, dans des considérations politiciennes, pour faire semblant. On ne peut pas faire semblant de gérer des problèmes de fond. Donc, la conséquence, vous me demandez, c'est qu'il y a guerre aujourd'hui.
Et il n'y a pas d'espoir, parce qu'il y a quand même le plan de désengagement qui vient d'être
mais accepté. Comment vous voulez pour qu'il n'y ait plus d'espoir? L'espoir existe, mais l'espoir, il faut créer les conditions de l'espoir. Il faut gérer. Il n'y a pas de fatalité dans la gestion des hommes. Il faut avoir une vision claire. Ce gouvernement n'a pas de vision claire pas sur de la situation.
Pas de vision.
Non, on a parlé de la réforme de l'armée. On nous présente des réformes à pacotille. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a formé tel groupe ici, mais globalement, quelle est la position? Quelle est la position sur l'accord de Nairobi en matière de FDLR? Est-ce qu'on les fait rentrer chez eux, on les désarme ou on les localise dans la province orientale?
Voilà.
Ce n'est pas sérieux,
voilà. De manière de la voilà, réaction à tous les bureaux. Il n'y a pas de position claire du gouvernement sur la question FDLR, sur la question des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est le sénateur Jolie qui l'a dit. Votre réponse?
Je voudrais d'abord rappeler que le processus à Mali participe à une démarche logique. N'est-ce pas? Comme vous le savez, la situation au Kivu a des ramifications, sinon des origines extranationales, disons comme ça. Et donc, il fallait d'abord sécuriser le cadre régional sur le plan national, international et diplomatique. Il y a eu la déclaration de Dar es Salaam, et puis l'acte de Nairobi, et l'institution de la conférence des États de Grands Lacs, etc. Donc, le cadre international, les garde-fous internationaux étaient là. Alors, il fallait maintenant s'attaquer à l'aspect interne de la chose. Et c'est ainsi qu'il y a eu ce processus à Mali. Je suis d'accord avec le professeur Maligaba, Modeste, qu'il est difficile de réfléchir à 1200 personnes. Mais ce n'est pas impossible. Et c'est pour cela que pour rendre plus efficient la réflexion, qu'il a été créé des commissions. Il a été créé des commissions. La commission de sécurité, la commission de développement, la commission de ceci. Et c'est ça le noyau qui permet au processus Amani de fonctionner. Alors, tout se passe comme si Konda a réussi à créer dans l'opinion des responsables congolais le syndrome du malfaiteur bienveillant. Vous savez, l'opinion publique a toujours une certaine sympathie vis-à-vis d'un bandit qui nargue l'autorité. En France, on se souvient de Jacques Mesrine, n'est-ce pas? Et quand il est mort, les gens avaient presque regretté.
Vous avez cette impression?
Ce n'est pas une impression, les déclarations le prouvent. Les déclarations des uns et des autres. Ah voilà, Konda. Mais personne ne condamne Konda. Personne ne dit que Konda. Mais voyez la séquence des événements. Le président Kagame fait une interview dans le soir où il dénonce le leadership de notre pays, où il dénonce, n'est-ce pas, la méthodologie d'approche. Et comme pour le relayer, Konda est là. Il fait des attaques, etc.
Alors, il y a quand même des gens qui condamnent.
Malheureusement, sur le plan humanitaire, comme l'a dit le sénateur, c'est révoltant que des populations innocentes,
qu'ils demandent qu'à profiter de la démocratie puisse ainsi être prise en otage par un groupe de gens. Je citerai condamnablement qui ne sait même plus pourquoi il se bat. Parce qu'au départ, il avait dit que c'était pour défendre les Banyamulenge, etc., etc. En toute hypothèse, croyez-vous que les Banyamulenge soient les seuls à souffrir de cela? Parce qu'on peut citer d'autres cas. Il y a des ethnies qui souffrent aujourd'hui, qui font ceci, qui font cela. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que M. Kunda veut instrumentaliser, n'est-ce pas, la panique, si vous voulez, le manque de vision globale des populations banyamulenge à ses propres frais. Est-ce qu'il s'était battu pour créer des taxes? Aujourd'hui, il est plus riche qu'avant. Mais la situation des banyamulenge n'a pas changé.
Oui, là, vous citez Kunda, mais quand le rapport de Global Witness ne cite pas que Kunda, il cite aussi les forces.
Voilà, je vous dis ceci. Au départ, tout le monde s'accorde, entre guillemets, et comme si Kunda était blanc comme neige. Alors, je suis en train de vous démontrer
que
Kunda est un malin personnage qui tire profit des malheurs des siens.
Oui, Modeste Bonigaba.
Oui, je crois que si de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire cette partie qu'on peut appeler sécurisée entre guillemets, si l'état de droit fonctionnait, si on voyait qu'effectivement il y avait des efforts pour que la justice règne dans le pays, que les justiciables soient égaux devant la loi, etc. Je parle de l'état congolais. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont tellement investi dans les élections. Nous, on l'a dénoncé dès le début, on voyait déjà que c'était pas du solide. Mais le commun des Congolais investit dans les élections au point qu'aujourd'hui, ils se demandent, mais à quoi ça a servi? Et aujourd'hui, effectivement, si Nkunda exploite les contradictions qui se font jour du côté gouvernemental, je dirais que c'est de bonne guerre. Mais ne pas reconnaître que des problèmes sérieux, des problèmes de fond, n'ont pas connu de solution.
Tel que
l'armée, je vous dis, l'armée est au cœur du drame congolais aujourd'hui. Si vous continuez à dire que l'armée, bon, c'est un processus, etc., qu'il faut encore attendre 50 ans pour faire une vraie armée dans ce pays, eh bien, ce pays n'existera plus dans 50 ans. Il faut absolument considérer que l'armée est au cœur de la reconstruction de ce pays. Et comme on l'a si bien dit au dialogue intercongolais, une armée nationale et républicaine, c'est cela qu'il faut faire. Et l'armée nationale, je crois que tout le monde comprend cela, ça veut dire que son recrutement est effectivement national, à telle enseigne qu'on ne voit pas la couleur tribale ou autre de telle ou telle ethnie dans l'armée, parce que c'est tellement bien dosé. Aujourd'hui, on peut le faire ailleurs, on le fait par ordinateur, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur humaine. On fait en sorte que si c'est une armée de 100 000 personnes, eh bien, vous passez en revue cette armée-là, vous ne verrez pas, tiens, ça ce sont des Bangala ou des Ndouza ou des Bashi ou des Banyamulenge. Non, vous ne voyez pas sa couleur.
Donc pour vous, il y a ce problème de l'armée. Il y a ce problème de l'armée qui n'est pas encore.
Vous ne voyez pas cette armée, elle doit être républicaine. Il faut qu'on sache ce que ça veut dire. La République dans la tête de chaque élément de cette armée. Ce qui nous renvoie à un background plus élevé que ce qu'on... Aujourd'hui, il y a des militaires qui ne savent ni lire ni écrire dans notre armée. Ce n'est pas possible. Si vous voulez construire un Congo solide, il faut commencer par là.
Ça, vous l'avez dit. Donc, vous avez déjà évoqué le problème de l'armée. On va poursuivre parce que là, il faut qu'on rentre un peu, qu'on voie au niveau des solutions parce qu'il faut faire avancer les choses. Et là, on va le voir dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle seulement le thème de cette émission, qu'il s'agit bien du CNDP qui a mis fin à sa participation au programme Amani et qu'il existe des négociations directes avec le gouvernement. Quelles peuvent être les autres alternatives pour sortir de cette crise, c'est l'objet des débats dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, le rappel de notre contact pour vos réactions.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelles peuvent être les autres alternatives pour sortir de la crise suite à la décision du CNDP qui a mis fin à sa participation au programme Amani et qui exige des négociations directes avec le gouvernement? La société civile du Sud Kivu estime que le dialogue reste la seule alternative à cette crise. Son président Cyprien Biringingwa précise qu'il faut un dialogue sincère avec Laurent Kunda en RDC et non à l'extérieur du pays. Cyprien Biringingwa a été joint au téléphone par Guy Maté.
Il n'y a pas d'autre alternative que de pouvoir dialoguer. Bien entendu, on ne va pas refaire un deuxième Sun City. Ce dialogue devrait pouvoir se faire à Goma même et pas vraiment en dehors du pays. Et nous pensons que à ce moment-là, c'est pour cette raison que je disais que si Laurent Kunda Batware pense qu'il y a quelque chose, que la conférence sur la paix, la sécurité et le développement qu'il y a eu à Goma, s'il pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, parce que nous considérons quand même cette réunion de grande importance à laquelle ont pris part tous les représentants de la population, société civile, gouvernement, députés nationaux et provinciaux, avec le témoignage de la facilitation internationale, il faut qu'il y ait vraiment une certaine sincérité pour que la population du Sud et du Nord Kivu respire aussi le climat de la paix auquel d'ailleurs il aspire.
Quant au professeur Biéa, pour régler les problèmes de l'Est de la République, il faut lui donner une dimension à la fois nationale, régionale et internationale. Le professeur en relations internationales et sciences politiques pense qu'il faut que dans cette approche de paix à l'Est, tout soit subordonné au rapprochement diplomatique, à la normalisation entre le Rwanda et la RDC. On écoute le professeur Biéa au téléphone de Guy Maté.
Cette question ne peut être résolue que dans une relation d'État-État bilatérale entre notre gouvernement, le gouvernement rwandais. Et je ne pense pas que l'on pourra résoudre cette équation des forces congolaises instrumentalisées par un contexte régional ou international en ignorant le contexte international ou le contexte extérieur. Donc, pour moi, je pense que notre ministère des Affaires étrangères doit tout à fait se sentir dans l'initiative de normalisation avec le Rwanda. Une normalisation, je veux, qui passerait d'abord par une rencontre des administrations, pas des politiques. C'est-à-dire, les ministres vont avec des experts, le Rwanda avec des experts. Nous étudions point par point les possibilités de répondre à une relation bilatérale réelle, spéciale, sur laquelle nous construirons l'avenir sécuritaire de la région du Grand Lac.
Voilà, il y a deux propositions. Je commence par vous, Atondu Liongo, vous êtes membre de l'ANP, président de la Convention nationale, Convention pour la démocratie et la République, voilà, et puis ancien ambassadeur au Rwanda et ancien cadre des services de sécurité. Il y a deux idées qu'on propose. D'abord, cette rencontre directe entre le gouvernement et le CNDP. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette rencontre, vous?
Mais il y a toujours eu des rencontres directes. Ce que le CNDP exige aujourd'hui, c'est ça, des rencontres en solo. Il veut que ce soit lui et le gouvernement. Vous avez entendu les propos du président de l'Assemblée. On ne peut pas, a priori, n'est-ce pas, rejeter lorsque quelqu'un demande à vous parler. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter que cela ne crée un déséquilibre. Parce que, d'après...
Déséquilibre à quel niveau ?
Le déséquilibre politique. Le déséquilibre politique, parce que, à part le CNDP, qui y a d'autres ? Il y a combien de signataires ? Il y a beaucoup de signataires.
Mais c'est ce que le CNDP appelle le Parlement de...
Non, c'est pas le
Maïmaï.
Avant que le CNDP ne prenne les armes, il a trouvé d'autres avant lui. Il a ses aînés dans la rébellion. Donc c'est un peu prétentieux de sa part de vouloir dire « il n'y aura les autres, si vous traitez avec moi, c'est fini ».
Donc ceci
n'est pas sans nous rappeler, n'est-ce pas, ce que chaque rébellion disait. Moi, avec moi, c'est la solution. Et finalement, la solution, c'est le dialogue. Mais ce qui est important, il faut connaître le sens de l'acte du CNDP. Or, ce n'est pas clair. S'agit-il d'une pression politique? S'agit-il d'une échelle qu'il prête au Rwanda, au président du Rwanda? S'agit-il d'un moment de panique et qu'il voudrait profiter de la prochaine, de la 68e session de l'ONU pour faire entendre parler de lui? On ne comprend pas. Mais je pense que
Kunda, je ne sais pas si on a abordé la question de l'alternative.
On y est déjà, parce que là, bon, il y a la question. On va revenir à vous parce que le temps de donner. Que chacun s'exprime d'abord sur les rencontres directes avec le gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord avec
ça? Non, j'ai dit ceci. Oui. Aucun. Le gouvernement a toujours privilégié le contact direct. Le fait qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas, interlocuteurs pour le gouvernement, que ce soit le Maïmaï tel groupe, etc., mais ce sont des contacts directs.
Voilà.
Ce que le CNDP demande,
vous avez dit,
n'est-ce pas,
les contacts en solo,
isolés.
Oui,
les contacts isolés.
Il
faut étudier cette question, pour que ça ne crée pas une situation beaucoup plus complexe, parce que déséquilibrée par rapport aux autres. Il n'est pas le seul détenteur de la solution.
Merci beaucoup. Voilà. Merci. Jacques Intoli, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce contact, ce tête-à-tête que le CNDP réclame à corps et à cri, hein, et puis ce n'est pas la première fois, c'est bien avant la conférence de Goma.
Donc, moi, je voudrais d'abord dire que la question du CNDP cache, en fait, la situation générale d'inexistence de l'État. Et en fait, le CNDP évolue dans une zone où et les FARDC, et les FDLR, et les Maïmaï évoluent. Mais dans cette bouillabaisse de force et de violence, il y a le CNDP et les autres. Si nous disons que le CNDP est ravitaillé par des forces extranationales, qui ravitaille le Maïmaï? D'où viennent leurs armes? C'est ça la problématique. Donc, il faudra effectivement que le vrai acteur, pas les supplétifs, pas des gens qui servent, n'est-ce pas, d'acteurs secondaires à des forces obscures et mafieuses qui opèrent parfois à partir de tout ça, d'opérer. Donc,
et qui sont les vrais acteurs et qui sont les supplétifs?
Les supplétifs, c'est qui, c'est quand on attend les Maïmaï Kaïsindia, les Maïmaï Jackson, les Maïmaï ceci, on attend le Pareco. Il y a même des agents de Pareco qui travaillent dans l'administration publique et qui parlent publiquement. Comment des citoyens peuvent former de milices et fonctionner avec ce qui, soi-disant, représente l'État? Max Weber définit l'État comme le monopole de la violence politique. Et lorsque vous avez perdu le monopole de la violence politique, c'est que vous êtes soit un État en faillite, soit un État en déliquescence. Et il faudra vous réorganiser pour assurer votre autorité.
Donc pour vous, il faut ce contact, vous encourager ce contact.
Mais il se bat avec Kunda. Il faut négocier avec lui.
Voilà.
C'est important.
Voilà.
Bien sûr, il ne faut pas ignorer nos autres forces. Ouais. Mais l'adversaire principal, ou l'élément principal d'insécurisation de cette province, c'est Kunda, qui a une armée parallèle, qui a une organisation, qui a une administration. Merci. Et les Maïmaï ne sont que les supplétifs de part de ça.
Merci. Vous parlez, Modeste Bonigama.
Oui, je crois que...
Contact direct, Kunda et gouvernement. Votre point de vue.
Bon, à mon avis, je crois que le contact direct, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Il faut privilégier la résolution des vrais problèmes qui sont posés. Parce qu'en fait, on dit que Kunda, au départ, c'était pour les Banyamulenge. Bon, c'est possible. Mais aujourd'hui, il exploite toutes les autres contradictions qui sont sur la place publique dans le pays pour dire, voilà, la mauvaise gouvernance, la corruption. Vous savez que la corruption est l'une des causes de difficultés que nous avons pour faire la guerre à l'Est. Parce que l'armée...
Ça, c'est vous qui le dites, en fait.
Mais non, mais il y a même aujourd'hui un slogan qui circule, non Kunda, non job. Donc, Kunda est devenu un business. Alors, voyez-vous un pays qui, au ministère des Finances, aujourd'hui, si vous y allez, on vous dira que tous les paiements sont suspendus parce qu'il y a la guerre à l'Est.
Les cours de guerre.
Voilà. Alors, vous vous rendez compte, un pays qui se trouve dans une situation comme celle-là, c'est un pays qui est foutu.
Voilà. Donc vous avez rejoint un peu Jacques Joly, il faut des contacts directs entre Kunda et le gouvernement. Mais il y a eu cette autre alternative proposée par le professeur Biya et même un groupe de députés provinciaux du Nord Kivu qui souhaite qu'il y ait rétablissement des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Atondo Lyongo, vous êtes un ancien ambassadeur du Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait. Je pense qu'il est de l'intérêt bien compris de la République qu'il y ait, n'est-ce pas, une représentation, au moins, si pas au niveau diplomatique, au moins une représentation de nos intérêts. parce que cela éviterait au problème d'avoir directement un caractère international.
C'est impérieux.
Oui, oui, je pense, hein, je pense. Les modalités pratiques, etc. Oui. Il faut préparer cela. Et il faut travailler pour cela. Parce que, aujourd'hui, en réalité, le Rwanda est l'appui de la solution à nos problèmes. En tant que base arrière, pour ne dire que cela. Donc, il est de notre intérêt que nous puissions avoir de relations de plus en plus normales, tout au moins normalisées, avec le Rwanda, pour nous permettre d'avoir un dialogue direct.
Jacques Thierry, relations diplomatiques.
Je suis heureux que notre ami a tout compris finalement, et j'espère qu'il va faire passer ses messages dans son camp. La question, dites-vous, c'est une question complexe. Cette question complexe a des aspects diplomatiques, comme il a souligné, des aspects politiques, des aspects militaires et économiques. Mais l'aspect diplomatique est fondamental. Et à cet effet, il faut sortir de cette diplomatie naine dans laquelle nous évoluons. Rappelez-vous que le chef de l'État lui-même a dit...
Qu'est-ce que vous entendez par diplomatie naine?
C'est-à-dire qu'une diplomatie aveugle qui ne sait pas. Où est-ce qu'elle veut? Quels sont les dangers? Quels sont les objectifs? Rappelez-vous que le chef de l'État lui-même dit que puisque la crise se passe au Congo, il faut que le Congo prenne l'initiative de gérer la dynamique régionale. Le chef de l'État était président de la CAC. Il s'est rendu... Il faut qu'il se rende au Rwanda qui veut se retirer. Aujourd'hui, le Burundi constata, n'est-ce pas, l'anémie et l'inefficacité de la CAC est en train de dégager l'East African Community. Donc, la diplomatie congolaise n'est pas une vision claire.
Donc, on comprend qu'il faut réhabiliter les relations
diplomatiques. J'étais au Rwanda. L'ambassadeur tenait tous nos immeubles à Kigali sont à l'abandon, alors que nous sommes dans un quartier proche de la présidence. Et lorsqu'on nous propose dans le cadre de la CPGL de nous retrouver, le Rwanda réagit positivement, le Burundi réagit positivement, mais le Congo ne sait pas.
Voilà, un mot avec Modeste Bonigaba sur cette question-là.
Écoutez, tous les moyens sont bons pour arriver à éloigner les risques de confrontation. Or, justement, les relations diplomatiques sont faites pour éviter que deux États qui ont des relations diplomatiques en arrivent à se faire la guerre. Donc, continuer chaque fois à repousser l'échéance de cette rencontre entre des États qui décident une fois pour toutes d'oublier le passé et de regarder vers l'avenir, pour nous, c'est un signe qui n'est pas bon.
Merci beaucoup. On va passer aux réactions parce que Kissim Poutouk est déjà là. La première, je la donne d'abord, elle vient de Ladislas Kibasa de Kalemie Katanga. Pour lui, le gouvernement doit comprendre que le peuple congolais est arrivé à bout de sa patience et doit prendre ses responsabilités pour protéger sa population et sauvegarder son intégrité territoriale au lieu de se laisser distraire par Laurent Kouna. Première réaction avec vous à tous les Léongos.
C'est ce que le gouvernement fait. Parce que, en l'occurrence, ici...
C'est ce que le gouvernement fait.
C'est ce que le gouvernement fait. Et le chef de l'État. Parce qu'en l'occurrence, que cherche Kouna? Kouna veut nous ramener sur la voie de la guerre. La guerre très chaude. Eh bien,
est-ce qu'on y est pas déjà?
Nous devons réaliser.
Est-ce qu'on y est pas déjà?
C'est une péripétie de la paix. Nous devons réaliser. En aucun cas, nous ne pouvons abandonner le programme Amani, ni notre conviction que la paix passe par le dialogue.
Merci beaucoup. Je vais vous demander des réponses courtes pour nous permettre de prendre le plus de réactions possibles. Titi est là. Bonsoir, Titi.
Bonsoir, Jean-Claude. Uchu Kabazo de Lubumbashi au Katanga pense que le gouvernement doit obtempérer à la décision prise par le CNDP, celle d'une négociation directe avec le gouvernement pour éviter les déplacements involontaires de la population et la mort d'hommes dans cette partie du pays. Et surtout que l'option militaire prise par le gouvernement n'a pas donné un bon résultat. Simon Kalala depuis Goma au Nord Kivu ne partage pas cet avis. Il dit, même si Kunda met fin à sa participation au programme Amani, il n'y aura aucune conséquence grave, car sa participation, vais-je dire, n'y était que théorique et non pratique.
Nous allons à Mbandaka.
Oui, Mbandaka, Miché, dans la province de l'Équateur, bien sûr, se demandent pour comment est-ce que le CNDP peut exiger une négociation directe avec le gouvernement pendant qu'il continue à semer la terreur et tuer la population face à ce boycottage de Kunda au processus de paix. Sa place ne serait-elle pas à la haie, s'interroge-t-il.
Jeff Mandinga.
Jeff Mandinga depuis Londres au Royaume-Uni estime pour sa part que pour avoir la paix, il faut continuellement préparer la guerre. Il poursuit en posant la question de savoir quelle est la part en termes de pourcentage du budget national affecté à la défense.
Je t'arrête là, c'est pour tout. On va poursuivre. D'abord, on revient vers les invités pour y réagir. Modeste Monigaba, Simon Kalala de Tchongéfing depuis Goma, lui, il dit que même si Kunda met fin à sa participation au programme Amani, lui ne voit pas de conséquences graves parce qu'il pense que la participation de Kunda au programme Amani n'était que théorique. Vous partagez cet avis?
Non, je crois que normalement le gouvernement devrait saisir l'opportunité qui est en fait une opportunité négative, disons-le comme ça, de ces problèmes, de cette guerre qui revient à l'Est pour prendre du recul et se demander mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne la gouvernance du Congo?
Parce de façon générale.
Oui, de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, c'est le CNDP, mais hier, il y avait des problèmes au Bas-Congo. Peut-être que... On ne sait pas. Donc, on doit savoir que le Congo n'est pas encore tout à fait pacifié dans le sens plein du terme. Et que donc, il faut chercher à creuser pour trouver les causes profondes qui sont à l'origine de cette, disons, mal-gouvernance généralisée et essayer d'y répondre, d'y apporter des solutions durables. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand il y a le feu là-bas, on essaie de l'éteindre. En réalité, le feu n'est pas éteint. Il est juste... il couvre encore. De l'autre côté, il y a aussi un feu qui sort, et ainsi de suite. Donc, on doit prendre du recul et se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce Congo reprenne effectivement sa place en Afrique et dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ballottés entre des guerres, des conflits, des rébellions, des maïmaïs partout. Merci. Ce n'est pas comme ça que le Congo va se relever.
Merci beaucoup. On prend notre question, celle de Félix Litanga, étudiant de l'université de Kisangani, province orientale. Sa question, c'est de savoir ce que serait la position de Laurent Kunda et ses proches au cas où le gouvernement refuserait leur proposition. Jacques-Angélie, qu'est-ce que ça pourrait être?
Non, le problème, ce n'est pas de Kunda. Le problème, c'est l'État. C'est le gouvernement. Le gouvernement doit savoir que le premier chantier, c'est le chantier de la réconciliation nationale, c'est le chantier de l'établissement de la confiance nationale. Et sans ces éléments-là, c'est de la gesticulation qu'on fait.
La confiance avec qui?
La confiance avec tous. Le gouvernement utilise comme technique de gestion la violence. Or, la violence ne résout rien. Avec une baïonnette, on peut tout faire. Sans s'asseoir d'ici. Je crois que le professeur Bonigaba vous a dit, il y a nécessité d'avoir une offre globale de sécurité nationale. Comment on gère le conflictualité? Est-ce qu'il faut envoyer des gens pour frapper au Bas-Congo, tuer 100 personnes, parce qu'il y a de petits mouvements identitaires? Il faut arrêter les journalistes, parce qu'ils ont pris telle position? Est-ce qu'il faut toujours... Non! L'État moderne, c'était l'État modeste. C'était un État qui évolue non pas dans un ordre imposé, mais un ordre négocié. Voilà. La négociation n'est pas une faiblesse. Oui. C'est une technique de gouvernement, c'est une gestion de crise.
Merci beaucoup, puisque Atondo Liongo a souri pendant que vous parliez, pour dire qu'il n'était pas d'accord avec vous. Allez-y, rapidement.
Il y a beaucoup de choses que le sénateur a dit. Oui. Et aujourd'hui, il reprend. C'est une blague presque. Il reproche au gouvernement d'user des moyens à sa disposition, votés par le Sénat et le Parlement, pour rétablir l'ordre au Bas-Congo. N'est-ce pas lui qui a dit qu'un éminent professeur a décrit l'État comme les détenteurs de violence?
Légitime.
Légitime. C'est légitime, effectivement. C'est légitime. Mais c'est le droit, n'est-ce pas, la Constitution reconnaît à l'État le droit de remettre de l'ordre là où il faut.
Donc,
c'est ça. Et puis, de deux,
oui.
N'est-ce pas,
oui.
La voie de la paix,
oui.
d'abord, au niveau du gouvernement.
Oui, il nous reste que 15 secondes.
Au niveau du gouvernement, il y a une vision. C'est qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Il y a une volonté clairement affirmée, et puis il y a la persévérance à travers tout. N'est-ce pas? Et que Kunda ne peut pas sauver le Banyamulenge en tuant les autres Congolais. C'est pour ça qu'il doit rentrer dans la table de négociation et réintégrer le processus. Amen.
Merci beaucoup. C'est avec vous, sénateur Atundu, que nous mettons fin à cette émission. Merci à tous les invités pour les moins qui ont été à la technique, d'Hydrogène Impala à la réalisation, toute l'équipe avec Guy Maté, Titi Mpoutou, Willy Akonda et Tumba Kamanga Jean-Claude. Je vous dis merci de nous avoir suivis.
La diffusion de l'émission de l'audience congolais dès ce soir, demain matin à 4h40, voilà, heure de Kinshasa, 5h40, heure de l'Est de RDC. Vous pouvez également la retrouver sur radiocopie.net.